C'est la deuxième heure de ce 1295e Sweet Home Chicago. Notre invité est Richard Koechlin, infatigable, profondément passionné, extrêmement doué à la fois pour la guitare, le chant et l'écriture. L'intarissable artiste suisse Richard Koechlin nous parle de son copieux ouvrage Mark Knopfler, l'analyse d'une œuvre, sous-titré Barde celtique, guitare héros, mélodiste sensible, superstar. 535 pages constituent le tome 1 dans sa traduction en français qui s'intéresse à la période 1949-1995. Dans cet ouvrage remarquable, la carrière de Dire Straits y est disséquée, minutieusement analysée et le récit archi-documenté est régulièrement complété par des parallèles à la propre expérience de son auteur Richard Koechlin. Mark Knopfler, comme vous ne l'avez jamais lu. Cette interview passionnante et largement illustrée musicalement reprend des passages du livre et nous éclaire sur quelques épisodes de la vie de cet artiste hors du commun. Alors aujourd'hui, c'est la première partie. Nous commencerons par évoquer brièvement l'œuvre de Richard Koechlin et passerons en revue la scène blues en Suisse avant de nous lancer sur le vaste sujet qu'est ce musicien d'exception, Mark Knopfler. Combien de temps la rédaction de cet ouvrage lui a-t-elle demandé ? Mark Knopfler, l'homme et les musiciens, qui est-il au juste ? Que signifie Dire Straits ? Qu'en est-il de l'influence des DJ radio auprès du public pour la découverte et la popularisation des artistes ? Quelle similitude existe entre Sultan of Swing et la chanson anglaise du 16e siècle, Greensleeves ? En quoi le titre emblématique Six Blade Knife est-il si magique? Autant de secrets révélés, et bien d'autres encore, par l'intarissable expert Richard Koechlin, passionnant et passionné. Monté en 2 épisodes, la seconde partie de cette interview fleuve sera diffusée samedi prochain, 1er novembre.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Je suis au téléphone avec Richard Koechlin ou Richard Koechlin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Richard, bonjour en tout cas.
Et bonjour Marc, oui c'est Richard Koechlin.
Voilà.
Normalement.
Alors Richard, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on entend parler de toi, y compris à la radio. À signaler que pour les auditeurs complétistes, il y a également 3 autres interviews précédentes. Ensemble, on avait enregistré le 10 juin 2023 à propos de l'album Transcendental Blues. T'en souviens, c'était la dernière fois.
Avec plaisir, oui.
Et puis précédemment, le 19 mars 2022, on avait parlé de ton ouvrage Holy Blues.
Ah oui, oui.
Et ensuite, bien plus loin dans le passé, le 17 décembre 2011, on avait évoqué ton album « Howling with the Bad Boys, dedicated to the pioneers of Afro-American folk blues ». Voilà, j'ai pas retrouvé d'archives antérieures à 2011, mais ça fait encore plus longtemps que ça qu'on se connaît. C'est possible que ce soit pas que la 4e interview aujourd'hui, en tout cas 25 octobre 2025 aujourd'hui. On va évoquer, si tu le veux bien, ce que tu as commis, qui s'appelle l'analyse de l'œuvre, Mark Knopfler, barde celtique, guitare héros, mélodiste sensible, superstar. Tout ça, ça fait partie du titre. C'est l'ouvrage que tu consacres à Mark Knopfler. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, mais auparavant, Richard, je voulais te poser quelques questions dans le général. Toi qui es musicien également, on va l'évoquer aussi dans l'interview. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler en quelques mots de la scène blues en Suisse actuellement. Comment ça a évolué depuis qu'on en a parlé ? Est-ce qu'on continue à jouer dans différents endroits, dans des festivals ? Est-ce que le blues a toujours sa part du gâteau en Suisse, Richard ?
Eh bien, Marc, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Et oui, le blues en Suisse, il est là, il est toujours là. Il y a les vieux, comme moi, maintenant, aussi. J'ai pris l'âge un petit peu et je suis presque en train de partir doucement un petit peu de la scène. J'ai moins de concerts, je les cherche moins. Et ça a aussi cette raison qu'il y a tellement de jeunes qui ont tellement de talent qu'on les laisse parce qu'il faut absolument qu'ils ont leur chance aussi, les jeunes. Et alors, il y a tellement de jeunes. Il y en a un, par exemple, qui vient de Luzerne aussi.
Oui.
Et j'ai même très bien connu son père. C'est Ronnie Rast.
D'accord.
Et il est vraiment incroyable, c'est un petit peu dans le style Stevie Ray Vaughan, et il a du talent comme guitariste, incroyablement, il a à peine 20 ans, et il est aussi un excellent chanteur, il est très sympathique, il a de l'énergie, il y a tout, et des gars comme lui, il y en a d'autres, hein. Il n'y en a vraiment pas de soucis à se faire pour les jeunes. Et après, la question c'est comment le marché et le business vont se développer, là il y a des soucis à se faire, évidemment. C'est le streaming qui a tout changé, et maintenant c'est IA qui va tout changer, et ça fait peur, évidemment, et les gens, ils ont moins d'argent aussi. J'ai l'impression aussi que la musique n'a plus cette valeur qu'elle a eue. C'est un truc qu'on consomme, mais on va pas mourir pour ça. C'est un petit peu un truc vraiment normal maintenant. Mais bon, il ne faut pas voir le monde uniquement noir. Il y a encore des gens qui se laissent toucher à des chansons et tout ça. Mais ça a quand même changé le marché, ça c'est sûr.
Voilà, ça c'est un petit peu général. C'est vrai que ça touche aussi la Suisse, tu en témoignes. Malgré une scène émergente, tu viens de citer Ronnie Raft. Il y a d'autres artistes plus anciens peut-être et qui continuent tout comme toi à être présents sur la scène. Peut-être moins que toi au niveau du nombre de concerts. En tout cas, on peut citer également Philipp Funkhauser, qui est toujours là. Each time I look up my window, don't see
nothing that I'm supposed to see. Ah oui, lui, il est là et il est guéri aussi, une maladie grave, et maintenant il est encore mieux qu'avant, j'ai l'impression.
Voilà, il y a également Joe Caritos qui interfère souvent avec un musicien américain qui s'appelle Paul Mize. Oh my baby, I'm doing fine, but I have this burning question on my mind. I wanna do you have a time. And another question, babe. What's cooler than love? Joe Caritos, qui a joué aussi avec Michel Carras. Et puis un groupe que j'ai vu, que j'ai découvert au printemps dernier lors du dernier European Blues Challenge à Split. C'est un groupe suisse qui s'appelle Mark Slade and Rotosphere. Tu les connais, j'imagine ? When I was a little boy, born in 74, my
parents took me every Sunday to the church. Je ne les connais pas personnellement, mais je les connais par écoute, oui, excellent aussi.
Effectivement, ils m'avaient fait très très bonne impression, même s'ils ne sont pas montés sur le podium, il y avait énormément de groupes. Voilà, donc en tout cas, c'est eux qui avaient remporté cette fameuse palme du blues en Suisse, tout comme l'avait fait la chanteuse d'origine africaine Justina Lee Brown avec son groupe suisse. Whispering at night, just like a tear. Open my eyes,
but I see nothing clear. Ah oui, elle était vraiment incroyable, ouais.
Alors, Richard, on va évoquer ton livre sur Mark Knopfler. Tout d'abord, dire que c'est simplement le tome 1. C'est-à-dire, j'imagine, au fil de l'écriture, tu as dû te dire, oh là là, il y a tellement de choses à dire. Mon livre va mesurer, 1200 pages.
Et ouais.
Le tome 1, ça part de 1949, la naissance de Mark Knopfler, jusqu'en 1995. À quel moment, au fil de l'écriture de ce tome 1, Richard, t'es-tu aperçu qu'il fallait un tome 2 ?
Eh ben, c'est quand je me suis rendu compte que maintenant on est déjà à peu près vers 400 pages. Alors si tu continues comme ça, ça va être 1000 pages et ça va pas. Parce que personne n'avait acheté un livre de 1000 pages, sauf le livre de Keith Richards. mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai compris que c'est trop long et ça a aussi un rapport avec mon concept, avec mon style de narration et tout ça, que j'aime aller dans les trucs vraiment profonds et j'aime les détails. Et alors, ça a un déport, on va dire. Et là, j'ai pensé, ça aussi, une certaine logique que Mark Knopfler a vraiment deux étapes principales dans la vie. C'est l'étape 1, c'est Dire Straits. C'est l'étape 2, c'était où c'est encore la carrière solo de Mark Knopfler.
Voilà.
Et alors là, ça fait deux sens, en tous les sens du mot, de le partager en deux. My shoulder, all you can see of...
No money in a jacket, tight jeans at all. Yeah. Comment t'es venue l'idée d'écrire justement ce livre qu'on pourrait qualifier d'encyclopédie sur Mark Knopfler? À quel moment tu t'es dit, il faut que j'écrive à propos de ce monsieur?
Eh ben, j'ai déjà écrit quelques livres, je ne sais même pas combien maintenant par cœur. Et le dernier, c'était sur Chichi Kale, ouais, et ouais, après ouais. Encore un sur la transcendance. En la musique et tout ça, et aussi un livre sur le gospel, un livre sur Tamperet. Et j'ai cherché un nouveau thème, un nouveau sujet. Et alors là, j'ai pensé, bon, Mark Knopfler, c'est quand même un artiste qui m'a marqué et que j'ai une relation avec cette musique depuis 40 ans ou même 45 ans. Et c'était logique que je me suis dit, c'est maintenant parce que j'aimerais l'écrire quand il est encore en vie.
Voilà.
Et ne pas comme avec Chichi Kale, que j'ai eu l'idée d'écrire le livre 5 ans après qu'il est décédé.
Quelle est la somme de documents, Richard, que tu as consulté pour ce livre absolument encyclopédique, encore une fois, sur Mark Knopfler?
Oh, énorme. C'était énorme.
J'imagine.
C'était à peu près 2 mois de recherche uniquement, sans écrire un mot. C'était juste collectionner les infos, les dates, les autres livres qui existent. Et c'est Internet qui fait possible qu'on peut, pendant des heures et des heures, on peut chercher des trucs. Il y a aussi beaucoup d'archives que les fans du monde entier ont fait. Il y a des sites avec à chaque petit détail quelle guitare il a joué, avec quel morceau, avec les dates des concerts qu'il a fait, etc. Alors il a les infos, ils sont là, mais il faut les chercher.
Voilà.
Et surtout après, mettre une story après avec les infos, que les gens ils ont un livre qui les fascine.
Richard Koechly, combien de temps a-t-il fallu se pencher sur la documentation? Tu as dit 2 mois, mais sur le processus d'écriture, globalement, le livre t'a pris combien de temps de ta vie, en fait? C'est ça la question.
Bon, c'était une bonne année, on va dire.
Ah oui, quand même. C'est beaucoup et à la fois c'est peu, je trouve, pour le rendu qu'on peut en lire, en tout cas.
Oui, d'accord, mais ça c'est aussi parce que quand j'écris et quand je suis dans le fameux flow, quand tout marche, quand là, des fois je peux écrire 5-10 pages, dans une journée, quand je suis vraiment dedans et j'adore écrire tout ça. Écrire, c'est comme la musique, c'est un texte a aussi un rythme, il a un groove, il a une mélodie, tout ça. Et quand je suis dedans, des fois, ça avance assez vite.
Mmh.
Et c'est agréable aussi à faire.
À ton avis, à quel public ce livre est-il destiné?
Je pense que c'est les passionnés de Mark Knopfler et de Dire Straits. D'abord, c'est vraiment eux qui ont la patience de lire les anecdotes, les détails, tout ça. Et aussi quelques mélomanes qui aiment la musique, qui aiment le classique rock, qui aiment le blues, la country, tout ça. Parce que Mark Knopfler, il a mélangé des styles et tout ça. Et alors, le public qu'il est assez grand. Parce que déjà, les hardcore fans, il y en a dans chaque pays quelques milliers. Et après, quand on compte encore les gens qui sont intéressés par l'histoire de la musique, il est grand, le public, il est assez grand.
Oui, d'autant plus que ton livre est traduit dans plusieurs langues, on aura l'occasion de l'évoquer. Et puis dans cet ouvrage, j'ai retrouvé beaucoup de clins d'œil, notamment par rapport à ta propre carrière, parce que parfois tu établis un parallèle, ou en tout cas tu parles de musiciens que tu connais, qui t'ont accompagné, que tu as rencontré, tu parles de tes propres albums, etc. Je voulais savoir, moi aussi je pourrais faire des petits parallèles avec toi, Richard, en quoi est-ce que d'une manière générale le jeu de guitare de Mark Knopfler a influencé ton propre jeu?
Bah déjà, quand il a commencé avec Sultans of Swing, il y avait tout en son jeu, il y avait l'énergie du blues, il y avait cette passion de mélodie, cette grande intelligence aussi de jouer que les notes qui ont un sens dans une chanson. Et il y avait aussi ce côté finger-picking qui vient du country, et c'est tout ce que j'aime. Et il y avait aussi, après, le côté celtique, folk celtique, qui est lié avec ses racines de l'Écosse. Et là aussi, j'ai une grande passion. Alors, vraiment, il réunit les musiques que j'aime, ces cultures de l'Amérique et de l'Angleterre et du celtique. Et c'était vraiment une grande inspiration. Je ne sais pas si je serais musicien aujourd'hui sans Mark Knopfler, parce que c'était vraiment une grande source quand j'étais jeune, qui m'a donné cet amour de la musique et de la guitare.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass, doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Mark Knopfler, donc, il influence énormément de gens, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou même là-bas, hein, parce qu'il a joué aux États-Unis avec beaucoup de succès. Que j'ai en main, qui s'appelle le tome 1, Dire Straits, 1949-1995, consacré à Mark Knopfler, va être suivi d'un deuxième ouvrage, on l'a compris, un tome 2 qui va couvrir la période de 1995 à nos jours. Où est-ce que tu en es, Richard, de l'écriture de ce nouvel ouvrage?
Alors là, j'ai commencé avec un petit peu de retard, mais j'ai commencé, et là c'est la phase de collectionner les infos et tout ça. Je suis en train d'avancer doucement et j'espère que l'année prochaine, ça va être là. Mais je pense que ça va être un petit peu, peut-être que 300 ou 400 pages, parce que 500 pages, c'est un petit peu trop, je pense. Oui. Mais bon.
En tout cas, j'ai vraiment aimé la précision chirurgicale avec laquelle tu analyses à la fois l'homme et le musicien. Et justement, cette question d'ordre général, qu'est-ce qui le caractérise le mieux, Mark Knopfler, en tant qu'homme et puis en tant que musicien?
Eh bien, l'homme, franchement, parle avec ses chansons. C'est un excellent observateur, avec une grande empathie, il raconte les histoires, il observe le monde, c'est un narrateur et comme guitariste, évidemment, là, il, comme je l'ai dit, il a le mix de ces cultures que nous on aime et je crois j'ai écrit quelque part dans le livre avec la main gauche il est le guitariste blues, avec la main droite il est le guitariste de country,
ouais.
Et dans la tête il est le musicien presque classique qui compose les mélodies avec une grande intelligence et ça c'est un mix qui est vraiment adorable. Mais comme homme, comme il est homme, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement et je ne veux pas le juger parce qu'il va, comme nous tous, il a des secrets, il a des qualités et aussi les défauts, je pense, mais ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est la musique et ça suffit pour écrire un livre, je pense.
Alors Richard, il y a une chose qu'on peut faire, c'est aussi feuilleter ton ouvrage Mark Knopfler, l'analyse du love. À un moment donné, tu établis une comparaison avec Gigi Kell et je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer une des phrases que tu as écrite page 91 qui est « Nous ne rendons pas justice aux artistes si nous racontons des mythes sur des génies uniques et transcendants. »
Ah bah oui, le monde est la culture et il est plein de mythes et tout ça. C'est un petit peu les grandes fans de Mark Knopfler, mais c'est un exemple. C'est aussi les autres grands stars, c'est aussi pour eux. On a l'impression que Mark Knopfler est un dieu et qu'il a inventé cette musique de A à Z et qu'il est le meilleur de tous les temps. Et je trouve ça exagéré et c'est pas vraiment la vérité, j'ai l'impression. Parce que le monde est tellement complexe et c'est un grand puzzle qui est super intéressant parce qu'il y a tellement de musiciens aussi qui ont inspiré Mark Knopfler. Et Mark Knopfler inspire d'autres et c'est intéressant de voir les racines et aller aussi dans le passé, aller voir qui a fait quoi, qui a inspiré qui. Et le monde est complexe. Il n'y a personne qui invente vraiment la musique. Chacun trouve après son chemin et les nuances et écrit des chansons, évidemment, mais les styles sont là et on grandit doucement dans le temps.
Si je comprends bien, quand on déboulonne un mythe, on arrive mieux à en comprendre la mécanique, finalement.
Exactement, oui. Ouais. Ouais.
Est-ce que la phrase suivante résume bien ton ouvrage ? Je vais te citer, Richard. Notre compréhension et notre amour de la musique ne peuvent que s'intensifier si nous examinons de plus près les différentes pièces du puzzle et la façon dont elles ont été imbriquées les unes dans les autres.
Oui, et ben, ça c'est ma façon de penser. Mais voilà. Bon, il y a aussi quelques gens qui disent « ça m'intéresse moins, les détails, je comprends aussi ». Mais alors moi, j'ai toujours eu cette grande curiosité des détails et qui a inspiré qui et comment ça a commencé. Là, vraiment, c'est hyper intéressant, je trouve.
Mais ce qui fait qu'on apprend beaucoup de choses, forcément, j'ai envie de dire que tout lecteur va apprendre des choses. Et j'ajouterais, même si Mark Knopfler lit ton ouvrage, il va forcément apprendre quelque chose quand même.
Ben, j'espère.
J'en suis persuadé. Non.
Oui, d'accord, mais il faut dire aussi que mon livre n'est pas uniquement la vérité, l'objectivité. Il y a aussi cette subjectivité de l'auteur qui est là.
Oui, mais cette subjectivité, elle est à la Suisse, Richard. Tu en parles très bien quand tu évoques le départ de David, du groupe Dire Straits, quand tu donnes les arguments de ceux qui pensent que c'est tout la faute de David, d'autres qui disent que c'est tout la faute de Marc, d'autres qui disent que c'est la faute de personne. Ouais. Et à chaque fois, tu essaies de séparer le bon grain de l'ivraie. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment ton côté modéré et diplomate, finalement, c'est ça, hein,
là, oui, Richard. C'est exactement notre rôle d'être diplomate, d'être neutre quand on peut l'être.
Ouais. Tout en continuant à parcourir ton ouvrage, page 106, tu parles de l'ancien nom de Dire Straits. Est-ce que tu peux rappeler l'origine de « être in Dire Straits » à nos auditeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire, Dire Straits, finalement ?
Ben, ça, c'est une expression anglaise qui veut dire qu'on est dans les difficultés, qu'on n'a pas d'argent. Ouais. Il existe aussi d'autres mots un petit peu grossières que je ne vais pas dire maintenant. Mais être dans la...
Hein. Ouais.
Ok.
On a tous compris, effectivement.
Ok.
Et ça n'a pas duré vraiment longtemps pour Dire Straits, même s'il y a eu quand même une bonne période de latence avant un véritable éclatement de plafond de verre et la reconnaissance mondiale du groupe. Ça, tu en parles très bien. Taking up
it's evil when you're living alone. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to carry that water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of
par rapport à cette reconnaissance. Tu parles des DJ de radio dans la découverte des nouveaux talents. Et page 128, tu évoques bien cet aspect des choses qui date de l'époque 77-78. En quoi, Richard Koechlin, depuis cette époque, est-ce que l'influence des radios s'est érodée pour la découverte des nouveaux talents ?
Mais je pense qu'elle est là encore, ça... changer parce que vous êtes maintenant, bah, vous êtes plus les seuls, mais à l'époque, vous étiez vraiment les seuls avec les magazines, tout ça. Mais c'est une grande responsabilité de faire connaître les talents, les jeunes, et on est vraiment des musiciens à l'époque, encore plus que maintenant, mais encore maintenant, on est dépendant que les médias nous donnent une voix, que les gens ils sachent qu'on existe. Et là, vraiment, vous, toi, Marc, et aussi les autres membres du collectif de Radio Blues en France, vous faites un excellent boulot qui est vraiment important, mais qui est, à mon avis, assez valorisé aussi parce que vous le faites vraiment sans intérêt financier, uniquement par patience et... Ça vaut de l'or, absolument.
Oui, et c'est vrai qu'on a changé un petit peu d'étalon hein, depuis cette période-là. Avant, on comptait en vente d'albums, c'était bien naturel pour tout le monde. Et puis maintenant, c'est les écoutes et les vues qui comptent sur Internet. C'est ça, le nouvel étalon.
Ah oui, ça, maintenant, c'est les médias, les social media. Et ça a vraiment encore donné un autre outil. Mais franchement, ça ne veut rien dire. Quand on a Internet, ça ne veut pas dire que maintenant, tout le monde va voir qu'on existe. Hein, ouais. Parce que c'est un énorme océan de gens qui veulent montrer ce qu'ils savent faire. Et là aussi, les gens sont débordés parce que c'est tellement la quantité et tellement grand. Et aussi, il n'y a pas que la qualité, c'est aussi la quantité et ça déborde. Et après, les bons gars comme vous, comme toi, ils sélectionnent et ils ont ce boulot de faire connaître les gens au grand public ou au public spécialisé de blues.
Ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà, oui, cette responsabilité, elle a un petit peu migré vers d'autres médias, mais j'ai envie de dire, c'est le progrès. Tu parlais tout à l'heure de l'IA, qui, là aussi, va changer la donne. Enfin, maintenant, il y a des robots qui fabriquent des chansons, qui sont likées, qui sont achetées, qui génèrent non seulement du contenu, mais aussi des revenus. Ouais. Et donc, ça devient absolument vertigineux, quoi.
Ça fait peur.
On va revenir à ton livre, Richard Koechlin, et ce titre, Sultans of Swing. Sultans of Swing qui avait propulsé véritablement, non pas immédiatement mais un petit peu plus tard, tu l'expliques très bien, le groupe Dire Straits sur la scène internationale. Et page 170, tu soulignes les similitudes entre ce titre, Sultans of Swing, et Greensleeve. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi tu penses que ce n'est pas une coïncidence?
C'est un hasard que j'ai découvert parce que personne n'a vu ça ou a remarqué ça, il me semble, mais les accords, la suite note des accords, c'est exactement la même que Green Flips, cette vieille chanson anglaise. Et c'est vraiment que les accords, on va dire, la progression d'accords qui est identique. Mais le reste, la mélodie, l'histoire, l'arrangement, tout ça, c'est complètement autre chose. Mais les accords, oui, ça fait partie aussi d'une chanson.
Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously. And I have loved you so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves?
C'est ce que tu écris, Richard. Tu dis une coïncidence, point d'interrogation. C'est théoriquement possible, mais il est bien plus probable que Marc ait cherché quelques accords pour ses paroles sur un national à l'accordage ouvert et qu'il soit intuitivement tombé sur cette progression de Greensleeve qu'il a ensuite conservé lorsqu'il a vraiment habillé la chanson avec la Stratocaster.
Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Oui, je pense que ça aurait pu être ça, mais bon, on n'est pas vraiment sûr parce que Marc n'en parle vraiment peu de cette époque avant Dire Straits, parce que cette chanson, elle a été créée à peu près 76, je
oui,
pense,
oui.
Et c'était encore avec une guitare acoustique, avec une nationale, et c'était pas encore cette chanson comme on la connaît vraiment. Et personne n'a écouté cette vieille toute première version. Mais on sait que c'était avec une open tuning, avec la guitare accordée avec les accords ouverts. Et je pense que quand on voit ce rapport avec Greensleeves, ça aurait pu être ça, cette histoire, oui.
Je me mets à la place des auditeurs qui ne sont pas tous musiciens. Est-ce que tu peux, en quelques mots, Richard, s'il te plaît, nous résumer ce qu'est un accord en open tuning ?
Ça, c'est quand on accorde la guitare qu'elle sonne sans gratter quelque chose avec la main gauche. Elles sont déjà comme un accord, voilà. Normalement un accord majeur. Et après, on n'a que avec le slide à déplacer les accords. Et c'est une autre façon d'accorder la guitare. Et c'est lié avec l'histoire du blues aussi, évidemment.
Voilà, parce que une guitare traditionnellement s'accorde en mi, la, ré, sol, si, mi. Et là, on va avoir un accord barré directement sans toucher avec la main gauche, tu l'as bien dit. Et on peut faire un accord en open tuning de mi, de ré, etc.
Ouais, voilà. Exactement.
Thank you.
You only know the kitchen and the wall. You don't know about the night shift, the whistle, punching the clock to the home. Because you don't know.
À propos du premier album de Dire Straits, tu déclares absurde, page 180, d'en comparer les différents morceaux, car chacun brille par lui-même selon l'ambiance dégagée. J'en ai retiré un dont tu dis qu'il est vraiment magique, ce titre Six Blade Knife. Est-ce que tu peux nous détailler en quoi ce titre est particulièrement magique ?
Il est magique déjà par ce grand minimalisme de guitare, parce que là, vraiment, Marc joue comme un vieux bluesman, quelques notes qui ont de l'énergie, qui ont vraiment... Et c'est très à la Gigi Cale aussi.
Oui.
Là, on sent vraiment cette inspiration et c'est un groove vraiment magique. Oui, et c'est peut-être la meilleure chanson même sur le disque, mais bon, ça c'est subjectif.
Oui, oui, bien sûr.
six-blade knife, do anything for you. Anything you wanna do. One blade breaking my heart, one blade tearing me apart. Six blade knives do anything for you. You take away my mind like you take away the top of my tin. Coming from behind me, you lay it down cold on my skin. When I was lame, just so you could make me tame. Yes, you take away my mind, you take away the top of the tin. Let me be free of it, babe. I don't want it no more. I'd like to be free of it now. I don't want it no more.
Sagesse pleine de nuances, un regard palpitant, des yeux de biche qui m'encerclent, un corbeau se moque, Icar me taquine, pourrais-je voler plus haut, encore plus haut? Non, non. n'irai pas plus loin sur le chemin du soleil. J'ai joué mon choker, il m'a fait cadeau de ton cœur. Je n'aurais jamais cru qu'un tel bonheur m'attendait, comme un ange devenu dans ma vie, comme un arc dans le ciel embelli. Si tu es loin, moi, le ciel a noirci. Surprise sans cesse, tu es le sel de ma vie, l'essence des envies. Ta douceur m'envoûte, ton allure me redresse. Tu chasses tous mes chagrins, j'ose regarder. Pourrais-je voler plus haut, encore plus haut? Non, non, je n'irai pas plus loin sur le chemin du soleil. J'ai joué mon choker, je m'a fait cadeau de ton cœur. Je n'aurais jamais cru qu'un tel bonheur m'attendait, comme un ange devenu dans ma vie, comme un arc dans le ciel embelli. Si tu es loin, loin, le ciel est noirci. Si tu es loin,
voilà, c'était la première partie de cette interview de Richard Koechlin, abondamment illustrée musicalement, avec bien sûr Sultans of Swing pour plusieurs extraits. Transcendental Blues, Holy Blues et Frank Meets Charlie par Richard Koechlin lui-même. Un petit teaser de Ronnie Rast, Philip Funkhauser avec Ain't That Something, Joe and Paul pour What's Cooler Than Love, Mark Slate and Rotosphere avec We Need the Blues Every Day, Justin Annie Brown pour Carry Me, ça c'était pour la scène actuelle suisse, et puis bien sûr JJ Cale Cocaine, et puis plusieurs extraits du premier album de Dire Straits qui porte le même nom avec Down to the Waterline, Lions, Sultans of Swing, In the Gallery, Setting Me Up, Wild West End, Water of Love, Southbound Again, et également une petite incursion au 16e siècle avec ce Greensleeve en plusieurs versions, vous avez pu vous en rendre compte. Et puis on a retrouvé ensuite Dire Straits bien sûr, ainsi que Mark Knopfler pour You Don't Know You're Born et Six Blade Knife, l'un des joyaux de cet album sorti en 1978. Et on vient de terminer avec Le Jardin de tes Sens, Richard Koechlin and Blue Roots Company. Nous étions en 2018. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette interview de Richard Koechlin et puis un autre invité en première heure, bien sûr, comme chaque premier samedi du mois, Jackie Emery, pour le 61e épisode de Beatles Song Story. Salut, bye bye.
Back to that same old place, sweet home, Chicago.